Six sonates de Jean-Sébastien Bach pour clavecin obligé et violon avec le Stadioni Paolo Zanzu. Pourquoi avoir rassemblé sur un très beau double album ces six sonates de Bach?
Ce n'est évidemment pas le premier enregistrement, mais nous avons tenu à le faire pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est des sonates qu'on a beaucoup jouées
avec Liv Heinz. Aussi parce que j'avais l'idée de le donner pour une fois sur plusieurs claviers. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un cycle unitaire. Hein, Bach a retravaillé nombreuses de ses sonates, dont notamment la sixième qui se détache assez clairement des cinq autres. Et comme Bach lui-même a beaucoup voyagé en Allemagne et a vécu quand même à un âge tout à fait honorable pour l'époque, il a eu la possibilité de jouer, d'essayer plusieurs clavecins tout au long de sa vie, outre les orgues évidemment. Aussi les pianofortes Zilbermann, d'ailleurs on a inclus un dans cet enregistrement. Donc on tenait vraiment à donner des images sonores assez variées en choisissant quatre claviers différents, trois clavecins et un pianoforte. Et une autre caractéristique de notre enregistrement, c'est aussi qu'on a inclus les versions précédentes de la sixième sonate, voilà, qui est, comme je le disais, celle que Bach a le plus retravaillé, ce qui fait que notre enregistrement a des caractéristiques propres qui le distinguent clairement des autres, en plus de l'interprétation qui est la nôtre, sans oublier, et là j'y viens parce que c'est un peu comme qui dirait Dulcis in Fundo, la présence de Christophe Coin à la viole de gambe. Donc c'est une présence d'exception, un invité de marque qui vient jouer la viole de gambe. Qu'est-ce que fait la viole de gambe dans cet enregistrement? Alors, dans l'un des sept manuscrits de ces sonates, il est marqué avec la base de viol, si l'on veut, pour doubler la main gauche du clavecin. Donc, on a pris à la lettre cette indication et on a proposé à Christophe de venir prêter main forte dans trois de ses sonates. Donc, dans trois de ses sonates, sur trois claviers différents, deux clavecins et un pianoforte, on a aussi la viole de gambe qui double la main gauche du clavier.
Parlons un peu, vous nous avez expliqué donc, que vous avez enregistré sur plusieurs instruments. Alors, pour ne parler ici que des claviers, ça veut dire que pour les enregistrer, vous êtes parfois allé à la rencontre des claviers. Ce n'est pas les instruments qui sont venus à vous.
Tout à fait exact. Comme il s'agit d'un répertoire allemand, moi j'ai souhaité utiliser que des claviers allemands et pour beaucoup d'entre eux, ces claviers allemands se trouvent en Allemagne. Donc on est allé à Berlin pour enregistrer un certain nombre de sonates et les autres, on les a faites. Les deux versions précédentes en fait de la sixième sonate, on les a enregistrées en Bourgogne, à Auxerre, sur un autre clavecin allemand. Se trouve là dans une collection privée.
Alors, parler d'Auxerre, c'est aussi une manière de revenir vers la Bourgogne et de dire que d'une certaine façon, c'est un petit peu votre, je peux dire quoi, cadeau d'adieu à la région Bourgogne-Franche-Comté, où vous avez passé quelques années en résidence au Théâtre du Rempart à Smurand-en-Soire.
C'est tout à fait cela. C'est d'ailleurs au Théâtre du Rempart qu'on a donné notre premier concert de cette série. Et c'est notre dernier projet en Bourgogne-Franche-Comté parce que c'est un enregistrement qui remonte à 2021. C'est notre un peu notre dernière production, on va dire, en Bourgogne-Franche-Comté avant de migrer vers les Hauts-de-France où on se trouve actuellement. Mais le disque est sorti avec un peu de retard.
Qu'est-ce qui fait qu'on s'en va ?
D'un point de vue musical, notre projet s'est développé, il a pris de l'ampleur et il a eu besoin d'un accompagnement d'une ville plus structurée. C'est cela en fait qui a motivé notre changement au départ. Et après, comme l'implantation s'est bien passée, on a pu faire d'autres rencontres, établir de nouveaux partenariats. Et donc, à partir de cette première implantation lilloise, on a pu se développer et puis être plus présent sur tout le territoire des Hauts-de-France. Et c'est ça qui a fait qu'on y est resté. Voilà.
Parlons-en tout. Revenons à Jean-Sébastien Bach. On n'a pas de manuscrit de la main de Bach des œuvres que vous avez enregistrées et que vous présentez sur ce double album.
Oui, tout à fait. Les manuscrits qu'on a, qui sont assez nombreux, parce qu'on en a 7, et ils sont pour la plupart du cercle immédiat de Bach. Hein. Soit ses enfants, soit de ses neveux, soit de ses élèves. Donc, quand même, on peut s'y fier, voilà, parce que c'est quand même le cercle immédiat du compositeur. N'oublions pas que Bach faisait copier ses œuvres dans son entourage, qui n'avait pas toujours lui-même le temps de le faire, et que beaucoup de ses manuscrits directs ont été perdus. Donc c'est tout à fait normal, on va dire, ce n'est pas une exception.
Vous êtes homme de clavier, Paolo Zanzu, et dans ses sonates, vous, l'homme de clavier, n'êtes pas cantonné au rôle d'accompagnement, si je peux dire.
C'est même ce qui fait un peu la nouveauté de ces sonates, à une époque où ailleurs en Europe aussi, hein, parce qu'en France, il y a les pièces de clavecin en sonate de Mondonville, puis les pièces de clavecin en concert de Rameau. Donc c'est un mouvement, c'est une nécessité qui apparaît à plusieurs endroits d'Europe. Et Bach, cela prend la forme de sonates en trio, comme c'est le cas de sonates pour viol de gambe et aussi des sonates pour flûte, donc où on a une texture qui est le plus souvent à trois voix égales. Donc le clavier en prend deux et le violon la troisième. Mais dans ces sonates pour violon, Bach s'amuse plus que dans les sonates pour viol de gambe pour flûte à rechercher aussi des textures différentes. Le violon est souvent peut aussi jouer en double corde. Le clavier peut jouer des accords très fournis aussi. Donc voilà, à partir de cette texture en trio que Bach affectionne particulièrement, il y a aussi des excursus ailleurs dans d'autres types de textures. Il est vrai, comme vous l'évoquiez, que jusqu'à présent, le clavier avait un rôle d'accompagnement, donc avec une basse écrite. Sur laquelle la main droite improvisait des accords ou des passages, voilà, pour soutenir l'harmonique. Là, tout est écrit, la main gauche et la main droite.
D'où l'expression « obligé ».
Tout à fait, c'est-à-dire qu'on est obligé de jouer la main droite qui est écrite par le compositeur et on ne va pas s'amuser à faire notre propre réalisation. Surtout parce que là, pour le coup, la main droite est une voix réelle, proprement parlée, écrite et réfléchie.
Thank you. parlons en dessous. Il y a évidemment les deux CD dans l'album et puis il y a un livret. Et quand on ouvre ce livret, eh bien vous y écrivez beaucoup. Qu'est-ce qui fait que le musicien a envie de venir aussi sur ce terrain, je dirais presque théorique?
Je ne trouve pas que mon livret soit très technique.
Il est plus pédagogique que théorique.
Oui, et puis il est aussi inspirant pour celui qui écoute le disque, parce que par exemple, je propose un titre pour chaque sonate, un titre qui évoque aussi un affect dominant par sonate. Je suis obligé de donner quelques éléments techniques pour expliquer d'un côté le contexte historique et musical, d'autre part les nouveautés de ce recueil, ce qui caractérise aussi certaines pièces en particulier. Et après, non, j'essaie surtout de donner un guide de lecture, parce que c'est quand même des œuvres difficiles non seulement à jouer, mais à écouter aussi, au-delà de leur beauté intrinsèque qui est évidemment évidente, hein, c'est quand même une musique exigeante, écouter aussi. Donc j'essaie de donner des clés de lecture et des inspirations qui me sont propres, mais qui veulent aussi éventuellement aider celui qui écoute à en savoir un peu plus sur ses œuvres. Le public avisé qui connaît bien les œuvres, il verra la nouveauté, évidemment, tout de suite. Celui qui ne connaît pas les œuvres, bah, il sera, de son côté, j'espère, charmé de toute façon par l'interprétation, au-delà de celles qui sont les nouveautés de cette interprétation. Donc, non, pour moi, il n'y a pas ce risque-là. Et puis, le livret, encore une fois, on peut le lire ou pas le lire, ce n'est pas une obligation. Et pour celui qui veut le lire, voilà, il se propose de donner des clés, en effet, comme vous disiez, pour apprécier la nouveauté de là où les particularités, on va dire, de celle qui est notre interprétation, et aussi tout simplement pour avoir des jalons comme ça pour mieux appréhender.
avez évoqué, Paolo Zanzu, le côté un peu itinérant, enfin ça prend quelques années, mais de la carrière de Bach au service de tel ou tel prince. L'Allemagne n'est pas encore unie à l'époque et loin s'en faut. Vous assistez entre autres sur la période 1717-1723.
Oui, c'est une époque particulièrement heureuse de la vie professionnelle de Bach, parce qu'il était maître de chapelle chez le duc d'Anhalt-Köthen. C'est une principauté riche et avec un prince calviniste. Donc Bach, qui était luthérien, n'avait pas d'obligation d'écrire de la musique pour le culte. Il en a quand même écrite parce qu'il fréquentait une église luthérienne, mais il était relativement libre. Tout ce qu'il faisait, c'était diriger le petit orchestre de cour. Il y était tenu en très, très haute estime par le prince, et il avait d'ailleurs un salaire très très haut pour la fonction et pour l'époque. Et donc, c'est le moment où Bach écrit beaucoup de musique de chambre et beaucoup d'œuvres pour clavier, beaucoup de musique d'orchestre aussi. Pour vous donner une idée, c'est là qu'il écrit suite anglaise, suite française, sonate partita pour violon, suite pour violoncelle, les sonates pour violon et clavecin, viol de gamme et clavecin, flûte et clavecin, les concertos brandebourgeois, les suites pour orchestre, les concertos pour violon, les concertos pour clavecin. Vous voyez, c'est une production très très riche en musique instrumentale.
C'est pas le Bach dont on nous parle souvent, qui se plaint beaucoup du manque de moyens, de manquer de chanteurs, de manquer d'instrumentistes, de manquer de beaucoup de choses pour faire de la musique.
Non, celui-là est le Bach de Leipzig. J'en reviens d'ailleurs, j'étais au Bachfest et j'ai eu la chance de visiter le musée avec en privé, voilà, avec Peter Wolnick, qui nous a sorti des manuscrits qu'on voit rarement. C'était merveilleux, et il nous a justement sorti une lettre où il se plaint, ça de plus, manque de moyens et de la mauvaise qualité de certains des musiciens qui mettent disposition. C'est très intéressant. Oui, ça, c'est le Bach de Leipzig, qui était moins bien payé, qui avait une position moins prestigieuse de celle qu'il avait à Köthen. Mais c'est un Bach qui écrit des œuvres vocales fabuleuses, hein, énormément de cantates, parce que son devoir l'y obligeait.
Parlons en dessous, je vous propose de terminer notre petite série d'entretiens avec la sixième sonate dont vous dites qu'elle est à part.
Elle est à part pour plusieurs raisons, alors que les cinq premières sont un quatre mouvements dans une texture assez souvent à trois voix, donc dans l'esprit du trio, donc qui épouse quelque part le modèle corélien de la sonate à trois en quatre mouvements de façon plus stricte, hein, c'est ce qu'on appelle sonate d'église, la sonate à la chiesa. La sixième sonate, elle se réfère, elle, plutôt à la sonate de chambre, à la sonate à la camera, avec plus de mouvements et avec moins de contraintes, aussi bien du point de vue des voix que du point de vue de l'alternance des mouvements. Hein. Dans les cinq premières, on a toujours, comme je disais, quatre mouvements dans une alternance de lent-vif-lent-vif. Dans cette sixième sonate, on a, selon les versions, et ça, c'est une autre des raisons qui la distingue des cinq autres, c'est que de cette dernière sonate, il y a eu au moins trois versions qu'on connaît. Donc, selon les versions, on a six mouvements ou cinq mouvements, mais alors ces cinq mouvements ne sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est une sonate qui a changé d'aspect et d'équilibre et de forme plus souvent et plus que les cinq autres.
Alors, vous avez dû choisir.
On a extrait les trois, à savoir la dernière version avant, et ensuite un appendice. On a enregistré la première version en rajoutant mieux le mouvement central de la deuxième qui n'apparaît dans aucune des autres versions. Parce que le premier mouvement, par exemple, ne joue jamais dans les trois versions. Le dernier mouvement est la reprise du premier dans les deux premières versions, tandis que dans la troisième version, Bach écrit un nouveau final. Les deuxièmes et avant-derniers mouvements sont à peu près semblables, on va dire, dans les trois versions. Donc, ce qui change essentiellement, c'est les mouvements centraux. Donc, c'est pour ça que les deux premières versions, on les a fusionnées, on va dire, pour donner une idée, parce qu'on n'allait pas enregistrer le même mouvement quatre fois.
Et pour se faire une idée, je reprends votre expression, ben, la meilleure façon, c'est d'écouter ce double album, donc le Sajoni. Bach, six sonates pour violon et clavecin, obligé, c'est sous le label Paratis.